Je vais vous parler un petit peu de la politique actuelle de réduction des risques, là où on en est. Je vais revenir un petit peu sur l'histoire. Donc, vous savez que la politique de réduction des risques est née de la crise du sida dans les années 80-90. Et c'est parce que les usagers de drogue mouraient et qui pouvaient contaminer les autres personnes qu'il y a eu cette politique de réduction des risques qui s'est développée et qui... Alors il y a quoi ? Il y a eu les traitements de substitution, il y a eu les boutiques Basseuil qui sont devenues Carud, il y a eu les programmes d'échange de seringues. Et puis, tout ça s'est développé, la réduction des risques arrive à son apogée dans les années 2000 avec ce qu'on appelle l'ère Maestrachi, Nicole Maestrachi, la présidente de la MILT, avec le petit livret « Savoir plus, risquer moins » qui est édité à 5 millions d'exemplaires et vendu au public, avec le journal d'Assud qui adopte un sous-titre dans les années 2000 qui s'appelle le journal des drogués heureux. Petit à petit, et ça va être comme ça jusqu'en 2002, et petit à petit on va avoir une période de glaciation que certains d'entre nous appellent 7 ans d'hiver entre 2002 et 2009. C'est-à-dire une réduction des risques qui se recroqueville sur elle-même, qui est en panne d'innovation. Alors pourquoi ? Selon moi, en tout cas, c'est dû au moins à un triple mouvement. Le premier mouvement, c'est qu'en 2002, la réduction des risques et la lutte contre le sida se déconnectent complètement. C'est-à-dire que la réduction des risques a réussi son pari d'arrêter toutes les nouvelles contaminations en VIH. Ce qui fait que les politiques de réduction des risques d'un côté et de sida de l'autre vont complètement se déconnecter. Et la réduction des risques va perdre son moteur principal. Quand même avec, par exemple, il y avait ACT UP qui était un des tenants de la réduction des risques, un des créateurs de la réduction des risques qui va complètement arrêter d'en faire. C'est-à-dire que les politiques vont se déconnecter. Ensuite, il y a aussi une institutionnalisation en 2004 de la réduction des risques qui va être une institutionnalisation très centrée sur le VIH, alors que la réduction des risques ne s'attaque plus, justement la politique de réduction des risques et la politique de sida sont complètement déconnectées depuis quelques années. Pour vous donner quelques idées, déjà la réduction des risques va être inscrite dans le code de la santé publique au chapitre VIH, ça donne déjà, et puis il y a plein d'outils qui seront refusés lors de cette institutionnalisation parce qu'ils ne sont pas efficaces contre le VIH ou contre les maladies infectieuses, par exemple le testing qui est un outil de rencontre des usagers en milieu festif qui ne sera pas autorisé parce qu'il n'a rien à faire avec la lutte contre le VIH. Autre exemple, le kit sniff, qui ne sera pas autorisé dans le référentiel parce qu'il n'a pas prouvé son efficacité sur les maladies infectieuses. Mais pire que ça, la réduction des risques va complètement passer à côté. En fait, la réduction des risques va être institutionnalisée juste comme un instrument de la lutte contre les infections. Et elle va complètement passer à côté de ce qu'est l'esprit de la réduction des risques et la citoyenneté des usagers de drogue. Deux exemples de ça, c'est que les associations d'autosupport vont être sans arrêt attaquées. Et si les professionnels ont pu avoir des budgets pérennes grâce à cette institutionnalisation, c'est pas du tout le cas pour les associations d'autosupport ou de santé communautaire comme ASUD ou comme TechnoPlus. Donc c'est une institutionnalisation qui profite qu'aux professionnels et qui laisse les usagers complètement... les associations d'usagers qui sont l'âme de la réduction des risques complètement sur le carreau. Et le troisième mouvement qui va monter en puissance de 2002 jusqu'à 2009, c'est la répression, une répression accrue, qui va monter en puissance petit à petit avec l'apogée et l'arrivée d'APER en 2007 et qui va renforcer la répression. Des exemples, c'est les peines planchers, qui touchent aussi les usagers de drogue, il ne faut pas se le cacher. C'est les stages cannabis, enfin les punitions cannabis, où on doit assister à un stage et payer ce stage. Donc, et puis c'est la systématisation des poursuites pénales. Ce qui fait qu'en 2008, les condamnations à la prison pour usage simple n'ont jamais été aussi élevées, même par rapport aux années 90 et 80. Hein, c'est de l'ordre de 3000 condamnations pour usage simple, condamnations fermes. Et ça ne parle même pas de les condamnations pour détention, qui sont aussi de l'usage. Donc on a une politique qui punit de plus en plus et qui va complètement à l'opposé de ce que peut être la réduction des risques, puisque la réduction des risques, c'est une politique d'inclusion qui fait de l'usager un citoyen, et à côté, on a une politique de répression qui fait de l'exclusion, de la marginalisation des usagers. Alors pourquoi je dis que ça s'arrête en 2009 ? Alors la politique, ça ne s'arrête pas en 2009, mais en 2009, il y en a certains d'entre nous qui en ont eu absolument marre, qui se sont mis en colère, et qui ont installé une salle de consommation dans les locaux de la Sud pour à la fois promouvoir cet outil, mais pour dire stop, surtout. Stop, on ne peut plus continuer comme ça. La réduction des risques ne peut plus continuer comme ça. Et donc ça va marcher assez bien, puisque cette installation va avoir un succès médiatique, un succès politique, ça va être repris par Bachelot, ça va être repris par Morano, l'ancienne ministre de la Santé. En tout cas, il va se créer un débat sur les salles de consommation qui, par ricochet, va créer un débat sur la réduction des risques. Et on voit bien que c'est bien un débat sur la réduction des risques parce que les mêmes arguments qui ont été opposés aux salles de consommation sont exactement mot pour mot les mêmes arguments qui ont été opposés au traitement de substitution ou au programme d'échange de seringues. Alors c'est de l'incitation à la consommation, c'est de l'encouragement à la consommation, c'est la banalisation de l'usage, c'est baisser les bras, c'est un premier pas vers la dépénalisation, ou alors d'autres rhétoriques comme « mais la France est le meilleur système du monde ». Voilà, mais c'est mot pour mot les mêmes arguments. Ce qu'il faut voir, c'est que les salles de consommation, c'est un outil, mais qu'elles portent en elles, quand même, le germe d'un changement assez profond de la réduction des risques. Premièrement, c'est que la réduction des risques est hyper centralisée en France. Hein, c'est pas du tout comme aux Pays-Bas ou en Espagne, où c'est les communes qui décident, les collectivités locales. Là, ça descend d'en haut. C'est l'État qui décide et les communes n'ont guère leur mot à dire, y compris sur l'implantation parfois des carunes. Les salles de consommation, c'est un outil de politique locale qui vient de répondre à un problème, le problème des scènes ouvertes, qui est un problème local. Ça, il n'y a que les acteurs du terrain, y compris les acteurs politiques du terrain, qui peuvent s'attaquer à ce problème. Donc les salles de consommation, c'est aussi un moyen de redonner le pouvoir aux collectivités locales sur la réduction des risques. Et en ça, donc ça veut dire une décentralisation de fait. Le deuxième changement profond, c'est que on l'a vu le 5 octobre, la conférence sur les salles de consommation à Paris, c'est que dans les pays où il y a les salles de consommation, les acteurs politiques, les acteurs socio-sanitaires et les acteurs répressifs travaillent en réseau. Et travaillent en réseau dans un but commun qui est la sécurité et la santé de tous. Alors en France, ce n'est pas du tout la culture actuelle. La culture actuelle, c'est le clivage très profond entre les acteurs socio-sanitaires et les acteurs répressifs qui ne travaillent absolument ou très peu ensemble. Si on veut qu'un jour qu'il y ait une salle de consommation qui marche en France, il faudra changer aussi cette culture. Les salles de consommation, elles sont aussi l'esprit de la réduction des risques. C'est un outil extrêmement fort de citoyenneté des usagers de drogue. C'est, par exemple, actuellement, il y a des scènes ouvertes des usagers qui consomment dans la rue, dans les cages d'escalier, dans des conditions d'exclusion et de marginalisation énormes. Et les salles de consommation, c'est quoi ? C'est les collectivités locales, l'État, qui propose à ses usagers de leur donner un espace institutionnel où ils peuvent consommer. C'est un espace institutionnel, ça veut dire qu'on leur redonne une place dans la cité. Et c'est vraiment un des principaux avantages des salles de consommation. On leur redonne une place autant symboliquement que concrètement dans la cité. Là où ils consommaient dans les caves, dans les parkings, on va les intégrer au cœur de la cité. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la salle de consommation Quai Neuf. C'est assez énorme, c'est-à-dire que c'est un bloc vert fluo qui est posé au milieu de la cité, visible de tous. Donc on ne cherche pas du tout à cacher les usagers, au contraire, on cherche à les intégrer, mais en leur donnant une visibilité. Et puis, plus globalement, les salles de consommation, alors ce n'est pas la réduction des risques, mais ça interroge aussi, c'est une question fondamentale de ce qu'est notre société et de comment on s'occupe des plus vulnérables. Comment on s'occupe des plus vulnérables. Une société se juge aussi à comment on juge les plus vulnérables. Actuellement, qu'est-ce que les plus vulnérables ? Ils sont dans la rue. C'est du mépris, c'est de l'indifférence. Voire, c'est une politique du pilori. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'ils sont là, mais on les laisse là pour que le bon peuple puisse les voir shooter et que ça, entre guillemets, les dégoûte de prendre des drogues. Et j'exagère pas du tout. C'est par exemple la position de l'Académie de médecine qui dit que si on ouvre des salles de consommation, les drogues perdront leur côté répulsif. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus les usagers qui traînent dans la rue pour rappeler aux autres que... Donc, actuellement, c'est la politique de l'indifférence, du mépris et du pilori. Les salles de consommation, c'est choisir d'accompagner les gens dans leur globalité, y compris dans leurs usages, et de faire des pas avec eux. Et ça change tout. Voilà. Donc, le thème de l'atelier, c'était le thème de ma présentation, c'était mettre la politique de réduction des risques au centre du débat. On l'a vu avec les salles de consommation, on a à nouveau pu avoir une voix au chapitre. Les usagers ont pu à nouveau aussi avoir une voix au chapitre. Et l'idée, c'était de continuer à mettre cette réduction des risques au cœur du débat, sachant qu'il y a encore énormément à faire. Et on verra avec Patricia Carrieri, il y a des tonnes de populations oubliées de la réduction des risques. Donc il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter aux salles de consommation, il faut continuer à mettre la réduction des risques au cœur du débat, pas comme un outil de lutte contre les maladies infectieuses, mais comme un pilier de la politique des drogues, et un pilier de la politique des drogues. Donc pour ce faire, c'est comme ça qu'on a créé le Réseau français de réduction des risques, qui est un outil politique, uniquement politique, un outil de communication, pour continuer à informer l'opinion publique et interpeller les politiques et les leaders d'opinion. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Je pourrais vous parler un petit peu du réseau, mais par exemple, il y a 4 mois, on a créé le comité scientifique du réseau pour rapprocher les acteurs du terrain, des scientifiques, c'est des acteurs... pluridisciplinaire, dont Patricia Carrieri est membre du conseil scientifique du réseau et dont Françoise Barécine aussi, la prix Nobel de médecine, est présidente d'honneur. C'est un outil pour aussi redonner toute sa place à la science au cœur du débat, sachant qu'on l'a vu avec les salles de consommation, l'idéologie. C'est avec l'idéologie qu'on raisonne avant tout sur la politique des drogues. Et on a besoin de passer cette idéologie et de raisonner un petit peu en termes de science. Voilà. Je vous remercie.